Le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Un journal largement consacré à la disparition de Karl Lagerfeld, mort aujourd'hui à Paris à l'âge de 85 ans. Couturier génial, homme d'affaires redoutable, Karl Lagerfeld aura mené une carrière exceptionnelle sur plusieurs décennies. Dossier dans ce journal avec Cécile de Kervasdoué à Paris et Ludovic Piétenu à Berlin. Un cimetière juif profané en Alsace à quelques heures de la mobilisation nationale contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron s'est rendu à Quatzenheim cet après-midi pour dénoncer la profanation. Reportage dans cette édition. Nous verrons aussi avec Rosalie Lafarge que le rassemblement contre l'antisémitisme à l'appel du Parti Socialiste est critiqué au sein même de la communauté juive. Nouvel élément dans l'affaire Grégory. La Cour de cassation juge inconstitutionnelle la garde à vue d'un témoin clé, Muriel Boll, en 1984. Quelles conséquences pour le dossier? Nous ferons le point avec Florence Turme. À l'étranger, Bernie Sanders, à nouveau candidat à la Maison-Blanche, battu par Hillary Clinton en 2016. Le sénateur du Vermont espère remporter cette fois l'investiture démocrate pour ensuite affronter Donald Trump à la présidentielle américaine. Grégory Phillips nous appellera de Washington. Karl Lagerfeld s'en est allé avec ses lunettes noires et son catogan. Le couturier est mort aujourd'hui à Paris à l'âge officiel de 85 ans, même s'il entretenait le doute sur sa date de naissance à Hambourg dans les années 30. Icône de la mode, génie des affaires, Karl Lagerfeld était d'abord connu pour avoir relancé la vieille maison Chanel à partir de 1982. Cécile de Kervasdoué, bonsoir.
Bonsoir.
Revenons avec vous sur les grandes étapes de la carrière de Karl Lagerfeld, une carrière d'une longévité exceptionnelle.
Oui, la vie de Karl Lagerfeld, c'est une vie à toute allure qui a démarré à Hambourg, en Allemagne, vraisemblablement vers 1935. Fils unique d'un couple très occupé, il se réfugie très tôt dans les livres et les illustrations. En 1949, sa mère lui fait partager sa passion pour la mode en l'emmenant au défilé de Christian Dior à Paris. Fasciné, il se met à dessiner des modèles. Il s'installe à Paris et remporte en 1954 un concours organisé par le Syndicat international de la laine dans la catégorie manteau, alors que le gagnant dans la catégorie robe n'est autre qu'Yves Saint-Laurent. Fort de ce prix, il est embauché chez les couturiers les plus influents de son époque, Balmain d'abord, puis Patou. Travailleur acharné, il se fait remarquer et rejoint bientôt la maison Chloé comme directeur de la création en 1964 et l'année suivante chez Fendi en Italie, maison qu'il ne quittera plus pendant plus d'un demi-siècle. Rentré chez Chanel en 1982, il a donc passé des décennies entre Rome et Paris, devinant ou inventant la mode à chaque moment. Est-ce le fruit d'un flair exceptionnel? Lui, il expliquait cette longévité plutôt par sa grande ardeur au travail. C'est ce qu'il confiait dans un grand entretien à notre confrère de France Inter, François Bunel. C'était en 2012.
Je suis dessinateur. Je voulais devenir caricaturiste, illustrateur quand j'étais enfant. Parce que je savais pas qu'on pouvait gagner sa vie avec la mode. Et je vois un truc que je vais mettre sur le papier. Mais j'ai la chance de pouvoir le mettre sur le papier comme en trois dimensions que les gens qui doivent exécuter peuvent le lire et exécuter ça sans que même j'explique quoi que ce soit. Et les gens avec qui je travaille ont l'habitude. Mes dessins, j'ai la chance, sont lisibles comme une écriture pour ces gens-là. Et ça, c'est une chance énorme. Même, il y a des couturiers qui prennent du tissu, qui drapent. Ça, moi, je fais jamais ça. Je vois un drapé, mais je le mets sur le papier. Moi, je dors avec un bloc à côté de moi parce que souvent, j'ai vision et qu'il faut marquer au réveil, vous ne vous rappelez pas. Et travaillant sur une collection, c'est très simple. On dit en français, l'appétit vient en mangeant. Eh bien, les idées viennent en travaillant. 99% de ce que je fais va à la poubelle. J'ai des poubelles immenses chez moi. Hein. Mm-hmm. Mais le pourcentage qui reste est suffisant pour faire les collections que je fais.
Alors Cécile, Karl Lagerfeld était aussi un homme d'affaires avisé. Je suis une marque ambulante, je m'appelle Lagerfeld, avait-il déclaré l'an dernier dans une interview au Figaro.
Oui, et c'est avec ce don de la marque, en réinventant la petite robe noire, la marinière chez Chanel bien sûr, mais surtout le logo de Chanel, qui l'a permis finalement à la maison de couture de passer toutes les frontières, à aller jusqu'à Shanghai. D'ailleurs, Karl Lagerfeld détestait les frontières et les limites. C'est ce que racontent ses collaborateurs. Au quotidien, il faisait toujours au minimum quatre choses en même temps, et dessiner un croquis, écrire une lettre tout en étant au téléphone. C'est ainsi qu'en dessinant ses collections de Chanel, eh bien, il dessinait en même temps celle de Fendi. Lui qui avait lancé le prêt-à-porter chez Chloé dans les années 60, relançait encore le prêt-à-porter dans une collection pour H&M. Tout château de génie, il s'est plu aussi à devenir photographe de mode d'abord, puis photographe tout court. Amateur fou de livres, sa bibliothèque est, paraît-il, impressionnante. Il a créé sa propre maison d'édition et puis il a joué à mettre en scène sa propre propre image, sa propre marque. D'abord avec sa marque personnelle de vêtements, Karl, mais aussi avec Coca-Cola, Bob l'éponge ou la sécurité routière et sa fameuse publicité pour le gilet jaune. Il apparaît même dans un dessin animé pour enfants. Parce que pour lui, comme il le disait dans une récente interview, le vrai luxe, finalement, c'est de vivre en dehors de la réalité.
Cécile de Kervas-Doué, merci. C'est Virginie Viard, sa plus proche collaboratrice, qui va succéder à Karl Lagerfeld à la création des collections Chanel. À noter aussi cet hommage de Bernard Arnault, le PDG de LVMH. Karl Lagerfeld a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode. Il a aussi fait de Fendi l'une des maisons italiennes les plus innovantes, ajoute Bernard Arnault, propriétaire de Fendi. Et l'Allemagne dans tout ça, comment réagit-on outre-Rhin à la disparition du plus grand couturier allemand contemporain? Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ludovic, Karl Lagerfeld était un couturier allemand qui n'a jamais vraiment fait carrière dans son pays.
Oui, c'est un Allemand qui a réussi à l'étranger, ce qui ne l'empêchait pas d'être un phare pour les Allemands, me disait il y a quelques instants la spécialiste mode du musée des arts décoratifs de Berlin. Quelqu'un qui symbolise, me disait-elle encore, la réussite, le travail acharné, quelqu'un capable d'imaginer plus d'une dizaine de collections chaque année. Un ambassadeur ici, un pape allemand, peut-on lire dans les titres de presse. Le Kaiser, l'empereur, les Allemands le connaissaient aussi, bien sûr, sous ce surnom, le Kaiser Karl, un surnom en allemand, mais que les médias français lui avaient trouvé. Car il était surtout un dieu en France, comme l'écrit Die Tageszeitung. Un homme, les Allemands, que les Allemands ne suivaient plus guère que dans les tabloïds, notamment le quotidien Bild, très lu ici, qui rapportait encore récemment son absence lors du défilé Chanel au mois de janvier. Voici en gros comment les Allemands suivaient le succès de leur créateur, ses excentricités comme quelques-unes de ses déclarations qui ont parfois choqué, comme quand l'an dernier il lançait avec des mots très durs « Je hais la chancelière Angela Merkel » à qui il reprochait sa politique d'ouverture en faveur des réfugiés. Quelques années plus tôt.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. Et retrouvez sur franceculture.fr nos archives sur Karl Lagerfeld, notamment une émission de 1980 des Nuits Magnétiques consacrée au monde de la mode. Les actes antisémites se multiplient en ce début d'année 2019 en France. Dernière en date, la profanation d'un cimetière juif en Alsace à Quatzenheim, village situé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. 96 tombes retrouvées profanées ce matin avec des croix gammées peintes sur plusieurs stèles. Une tombe portait une inscription, Elsassische Schwarzenwölfe, les loups noirs alsaciens, allusion à un groupuscule autonomiste qui avait sévi en Alsace dans les années 70. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après midi. On prendra des actes, on prendra des lois et on punira, a dit le président coiffé d'une kippa pour se recueillir devant les stèles profanées. Emmanuel Macron qui a échangé quelques mots avec des habitants de Quatzenheim dont certains ont leurs proches enterrés dans le cimetière.
Je suis un ancien de Quatzenheim et je tenais absolument à faire le déplacement parce que ça me touche. Vous pouvez savoir à quel point.
Ça nous touche tous. C'est pour ça qu'on est là avec vous.
Oui, c'est bien. On apprécie.
Mon père est fils de déporté. Ses parents adoptifs, mes grands-parents sont enterrés ici.
Et mes grands-parents.
Mes grands-parents, toute la famille.
Toute la famille.
Tout le berceau familial est ici.
C'est pour ça que c'est ce visage de Quatzenheim qu'il faut donner.
C'est pour ça qu'il faut que ça change, monsieur.
Que vous soyez là.
Oui.
Et qu'on soit là tous ensemble.
Tous ensemble, toutes les communautés réunies.
Et qu'on frappe les consciences, vous savez. On prendra des actes, on prendra des lois et on punira. Mais la fin, c'est dans la conscience de chacune et chacun. Et la République, elle s'apprend et elle se porte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Elle les punira. Mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées à d'autres. Et c'est aussi par la réaction populaire, la force qu'il y a en chacun, qu'on apportera la meilleure réponse.
Reportage Lucille Guillotin de France Bleu Alsace le 11 décembre dernier, jour de l'attentat de Strasbourg. Un autre cimetière juif alsacien avait été profané à Herrlisheim, au nord de la capitale alsacienne. La profanation de Quatzenheim survient à quelques heures d'une vaste mobilisation nationale contre l'antisémitisme. À Paris, le rassemblement débutera à 19h, place de la République. Presque tous les partis politiques se sont associés à l'initiative du Parti Socialiste, à l'exception du Rassemblement National qui annonçait hier un hommage distinct aux victimes de l'antisémitisme. Plusieurs ministres du gouvernement, à commencer par Édouard Philippe, seront présents tout à l'heure, place de la République. Le député Les Républicains, Philippe Gosselin, regrette l'absence du Rassemblement National ce soir à Paris.
Je le regrette parce que je crois qu'il y avait là l'occasion de mettre l'ensemble des partis politiques au pied du mur et de pouvoir manifester du Front National, la France Insoumise, j'en passe et des meilleurs. Ça avait de la gueule, entre guillemets. Là, en réalité, on donne un beau prétexte au Front National de faire bande à part. Bien évidemment que ça lui colle à la peau parce que lui-même a des propos parfois tendancieux, où il y a eu des propos historiques de Jean-Marie Le Pen tendancieux, mais je crois en tout cas qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les 25 ou 30% d'électeurs qui se retrouvent dans le Front National sont des fascistes, racistes, des années 30, maurassiens. C'est complètement idiot. Et puis je crois qu'il faudrait quand même sortir un peu de tout ça parce que, en réalité, et tout le monde le sait, il faut appeler un chat, on a aujourd'hui un décollage, hélas, de l'antisémitisme lié à la radicalisation de l'islam ou d'une partie de l'islam, un islamisme qui est bien présent en France. Samedi dernier, contre Finkielkraut, il ne s'agissait pas d'un extrême droite fiché type maurassien, Action française des années 30, mais d'un salafiste connu. Et ça, il faut le dire et le dénoncer. Et je crois que le gouvernement serait bien inspiré de mettre tout ce petit monde-là entre les mains de la justice, sans attendre je ne sais quel autre détonateur.
Le député LR Philippe Gosselin répondait à Stéphane Robert. Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
Au sein même de la communauté juive, des voix s'élèvent pour critiquer ce rassemblement transpartisan contre l'antisémitisme.
Elle refuse ces voix de servir de caution. Le rabbin libéral Gabriel Fary, par exemple, il s'est senti récupéré par la France Insoumise lors de la marche pour Mireille Knoll, cette femme juive assassinée. Et s'il ne veut pas y aller ce soir, c'est à cause de la participation de certains partis politiques.
C'est la France Insoumise, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est le Parti communiste d'une certaine façon, certaines organisations politiques qui jouent un jeu de dupes, me semble-t-il, qui attisent cet antisémitisme que l'on veut combattre et qui, à mon sens, attendent une caution de certains religieux ou responsables communautaires. Et je suis très très mal à l'aise. On ne peut pas prétendre lutter contre l'antisémitisme lorsque l'on fait de l'antisionisme un cheval de bataille.
Le raisonnement de William Goldnadel est à peu près le même. Si la marche avait été unitaire, l'avocat et essayiste y serait peut-être allé. Mais dès lors qu'une sélection des partis s'opère et que les communistes en sont, c'est pour lui bien différent.
Comment voulez-vous que j'accepte de mêler mes pieds avec des gens qui, justement, ont été les fourriers de l'antisémitisme par leur bienveillance à l'égard de l'islamisme, par leur aveuglement à vouloir tout le temps voir les antisémites avec une petite moustache et une mèche et ne jamais les voir lorsqu'ils ont une barbe et un keffieh. Je ne veux plus confier le sort de la communauté juive de France et plus largement de la société française à ceux qui n'ont rien compris au phénomène antisémite et n'ont rien voulu voir.
Pour ne pas défiler non plus contre le racisme avec ceux, je cite, qui en sont responsables et l'instrumentalisent, l'Union juive française pour la paix appelle à manifester séparément à 19h, place Ménilmontant à Paris.
Rosalie Lafarge, merci. À noter que Jean-Luc Mélenchon demande au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner d'assurer la sécurité des députés insoumis présents tout à l'heure à République à Paris. Il y a un an, le patron de la France Insoumise et 11 élus de son parti avaient été chassés de la marche à la mémoire de Mireille Knoll. Ils avaient été invectivés par des militants de la Ligue de défense juive. Où l'on reparle de l'affaire Grégory, la Cour de cassation a reconnu aujourd'hui que la garde à vue de Muriel Boll en 1984 avait été effectuée en application de dispositions inconstitutionnelles. Interpellée par les gendarmes quelques jours après la mort du petit Grégory Villemin, Muriel Boll avait accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir kidnappé le garçonnet. Elle s'était ensuite rétractée en dénonçant les pressions qu'elle aurait subies lors de sa garde à vue. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Cet arrêt de la Cour de cassation aura bien sûr des conséquences sur l'instruction de l'affaire Grégory.
Oui, lors de sa garde à vue en novembre 1984, Muriel Boll, considérée comme un témoin clé de l'affaire Grégory, avait à peine 15 ans. Elle s'est retrouvée complètement seule face aux gendarmes qui l'interrogeaient, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui puisque l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs, maintes fois réformée, garantit désormais la présence d'un avocat. Sans véritable surprise, la Cour de cassation vient donc de tirer les conséquences de la décision rendue en novembre dernier par le Conseil constitutionnel qui avait censuré plusieurs dispositions de cette fameuse ordonnance de 45. Quant à savoir ce que cela va changer sur le fond du dossier, c'est maintenant à la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qu'il appartient d'en dessiner les contours. Elle va devoir statuer sur l'annulation de cette garde à vue et surtout se pencher à nouveau sur toutes les pièces qui s'appuient sur les propos de l'adolescente de l'époque. Le dossier ainsi expurgé reviendra ensuite à Dijon devant le dernier juge d'instruction nommé en 2017. En attendant, les différentes parties en présence divergent sur les conséquences de cette annulation. On se souvient, vous le disiez, que Muriel Boll avait accusé son beau-frère Bernard Laroche avant de se rétracter. Ces déclarations doivent être annulées, cela transforme considérablement le dossier, estime son avocat. Le dossier reste intact, soutient en revanche l'avocat des époux Villemain qui évoque d'autres éléments existants. À défaut de pouvoir être désormais utilisé comme preuve, le récit de Muriel Boll restera, cela dit, dans les mémoires d'une affaire qui n'a toujours pas trouvé son épilogue judiciaire 34 ans après l'assassinat du petit Grégory.
Florence Thur, merci. Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur la pédophilie dans l'église lyonnaise sortira bien sur les écrans demain mercredi. La justice a débouté aujourd'hui une ancienne bénévole du diocèse, une psychologue qui exigeait que son nom ne soit pas cité dans le film. Hier, le juge des référés de Paris avait rejeté la requête du père Prénat, poursuivi pour agression sexuelle, qui réclamait le report de la sortie du film au nom de la présomption d'innocence. Autre décision de justice, cette fois au chapitre politique. La Cour de cassation rejette les recours du Rassemblement national dans l'affaire des assistants parlementaires. Le RN, ex-FN, demandait l'annulation de la procédure dans laquelle le parti et Marine Le Pen sont mis en examen. Deux personnes blessées à l'arme blanche cet après-midi sur la Canebière à Marseille par une personne qui a ensuite été touchée par balle par des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. L'agresseur présumé blessé par le tir de la BAC a été conduit à l'hôpital dans un état de santé que l'on ignore pour le moment. Il avait échoué à la primaire démocrate face à Hillary Clinton en 2016. À 77 ans, Bernie Sanders se repart en campagne cette année. Le sénateur du Vermont annonce aujourd'hui sa candidature à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020 avec l'espoir d'affronter Donald Trump qui sera candidat à sa réélection. Bernie Sanders incarne l'aile gauche du Parti démocrate. Il aura notamment face à lui Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Grégory Phillips nous appelle de Washington.
Dans son premier clip de campagne, Bernie Sanders esquisse déjà ce qu'il va défendre dans les prochains mois. Le salaire minimum à $15 pour tous les Américains, une couverture santé universelle, la gratuité des universités et une priorité donnée à la lutte contre le réchauffement climatique. Puis sur CBS ce matin, Bernie Sanders choisit d'attaquer frontalement Donald Trump. Nous avons un président qui est un menteur pathologique, un président raciste, sexiste, xénophobe. C'est un président qui fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait. Il essaye de nous diviser. Avec ce programme résolument à gauche, Sanders espère aller jusqu'au bout cette fois. En 2016, ses idées étaient parfois perçues comme trop radicales, mais elles ont depuis été reprises par la jeune génération des élus comme Alexandria Ocasio-Cortez à New York. Alors voici ce que Sanders répond quand on lui demande ce qui a changé par rapport à la primaire perdue face à Hillary Clinton. On va gagner pour transformer la vie politique et économique de ce pays. Le sénateur du Vermont devra toutefois répondre aux interrogations sur son âge. Il aura 79 ans en 2020 et s'il était élu, il serait le président le plus âgé que les États-Unis aient jamais connu.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. Jusqu'où ira la nouvelle crise entre l'Inde et le Pakistan ? Le premier ministre pakistanais Imran Khan s'est exprimé aujourd'hui pour la première fois depuis l'attentat de jeudi dernier. 40 paramilitaires indiens tués dans la région du Cachemire, dans une attaque revendiquée par un groupe basé au Pakistan, l'attentat le plus meurtrier contre les forces de sécurité indiennes dans la région. Et depuis, le gouvernement indien accuse Islamabad de tolérer, voire de financer ces groupes terroristes. Imran Khan demande à l'Inde des preuves de cette implication pakistanaise dans l'attentat. La correspondance de Sébastien Farsi.
Le premier ministre pakistanais était resté silencieux depuis l'attentat suicide de jeudi au Cachemire, ceci alors que l'attaque a été revendiquée par le groupe du Jaïch-e-Mohammed qui est basé au Pakistan. Mais Islamabad veut plus de preuves, affirme Imran Khan.
Si vous avez des preuves fermes de l'implication de Pakistanais dans cet attentat, je peux vous assurer que j'ordonnerai une enquête contre eux. Car ces terroristes sont aussi les ennemis du Pakistan, ils agissent contre nos intérêts.
Après l'attaque commando de 2008 contre Bombay, l'Inde a déjà transmis à son voisin un dossier prouvant que les terroristes venaient du Pakistan. Mais le groupe accusé n'a jamais été puni. Les autorités indiennes affirment maintenant qu'elles sont prêtes à attaquer les camps terroristes basés au Pakistan. Le premier ministre pakistanais répond.
Je comprends que l'Inde va avoir des élections cette année et que vous voulez augmenter votre popularité en donnant une leçon au Pakistan. Mais soyez sûr d'une chose, le Pakistan n'hésitera pas une seconde à contre-attaquer.
L'Inde et le Pakistan ont mené 3 guerres en 70 ans d'indépendance, mais les deux pays maîtrisent maintenant l'arme nucléaire.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi. Le temps demain calme, le ciel sera nuageux au nord, ensoleillé au sud. Température minimale dégelée à l'intérieur des terres, jusqu'à 8 degrés en allant vers les côtes. Maximale en hausse, elles iront de 10 à 20 degrés du nord à l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Julien Loquet.